France Inter, le 18-20.
Dans trois semaines, le premier tour des législatives. Un scrutin peut-être plus important que jamais cette année, compte tenu de l'état de décomposition, on va dire avancé, du paysage politique, que ce soit à droite, à gauche ou même à l'extrême droite. Et cela est d'autant plus vrai que celui qui vient de s'installer à l'Élysée a lancé son mouvement il y a un an seulement. Les 11 et 18 juin prochains, La République En Marche se lancera à l'assaut de l'Assemblée en présentant des candidats dans de très nombreuses circonscriptions avec l'espoir de transformer l'essai de la présidentielle et de décrocher une majorité. Y parviendra-t-elle? Trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que l'Assemblée nationale sera au centre de toutes les attentions et qu'elle sera de toute façon profondément renouvelée. Plus d'un tiers des députés ne se représentent pas, beaucoup en raison du non-cumul des mandats, d'autres parce qu'ils préfèrent passer la main. Mais au fait, à quoi servent les députés? Quel est leur rôle précisément? Leur rôle, leurs moyens et l'étendue de leur pouvoir? On en parle ce soir avec trois députés qui vont quitter le Palais Bourbon, le Vert Noël Mamer, député non inscrit de la Gironde. Bonsoir Noël Mamer.
Bonsoir.
Enfin, vous quittez, mais vous êtes quand même suppléant.
Suppléant de ma suppléante, je vous expliquerai tout à l'heure.
Voilà. La socialiste Catherine Coutel, députée de la Vienne. Bonsoir Catherine Coutel.
Bonsoir.
Et le député LR du Val-de-Marne, Sylvien Berrios. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, à vous tous, ce soir, n'hésitez pas à nous appeler. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les députés sans jamais oser le demander, c'est maintenant ou jamais. Pour interpeller nos invités, vous avez le net avec le mot-clé Telson. Vous avez aussi le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et on part tout de suite au standard de France Inter où nous attend Martial qui nous appelle de Limoges. C'est bien ça? Bonsoir Martial.
Oui, bonsoir Claire Savageant.
Bienvenue
très
à vous.
Très heureux de pouvoir participer à votre émission. Et pour vos invités, j'ai une question très simple. Je suis déjà très satisfait, enfin nous sommes très satisfaits à la maison d'un certain renouvellement de la classe politique, hein, de nouveaux visages, ça ne fera pas de mal. Et surtout, indépendamment des clivages politiques, surtout, ce qu'on en espère, c'est qu'on arrive dans la prochaine loi de valorisation de la vie politique à des mandats de députés qui ne dépassent pas deux. C'est-à-dire quand les députés, les élus, soient vraiment de retour en phase avec la population et ne plus entendre des propos comme M. Drey ou M. Mariton sur une augmentation des indemnités de députés suite à l'affaire Fillon. C'est quand même grave. On se demande à quand les élus, qu'ils soient jeunes ou anciens, quel que soit le parti politique, vont retrouver pied avec la réalité de la nation. Voilà.
Merci beaucoup, Martial, pour cette question qui concerne donc en partie le renouvellement de notre Assemblée nationale, Assemblée qui va fortement changer, forcément, cette année. Qui veut commencer, Catherine Coutel, peut-être?
Oui, alors cette Assemblée va changer parce que, d'une part, un certain nombre ont décidé de ne pas se représenter. Moi, je l'avais décidé en 2012, hein, ça fait mon deuxième mandat, 2007-2017. Elle va changer parce qu'on a voté le non-cumul des mandats. Donc il va falloir choisir entre le mandat local et le mandat national.
Ça, c'est une loi que vous avez votée en 2014, hein,
oui,
et qui va rentrer en application cette année.
Absolument, et qui va rentrer définitivement en application, sauf si une nouvelle loi vient, mais pour l'instant on ne peut pas la remettre en cause. Et donc elle va aussi changer parce qu'elle va être plus féminisée. On a doublé les pénalités pour les partis qui ne présentent pas assez de candidates. Et nous étions à 26%. J'espère bien qu'on va fortement augmenter la présence des femmes, puisque moi j'étais présidente de la délégation et que ça a été mon combat pendant 5 ans.
Noël Mamère, Martial nous disait pas plus de 2 mandats pour lui. Vous en avez fait combien?
J'ai fait 4 mandats.
Ça fait 20 ans que vous êtes à l'Assemblée nationale?
Ça fait 20 ans que je suis député, 28 ans que je suis maire. C'est la raison pour laquelle je vais transmettre, on est propriétaire de rien. Donc c'est ma suppléante qui est une jeune femme de 40 ans, Naïma Charaï, qui est socialiste, qui sera candidate. J'ai accepté d'être son suppléant pour mener campagne avec elle. Et je vais passer la main comme maire de Bègles au cours d'un conseil municipal le 29 juin pour demander à mon conseil municipal d'élire un jeune homme écologiste de 40 ans. Il faudrait dire à ce monsieur que la loi qui est prévue par le président de la République, la loi de moralisation de la vie publique qui sera présentée avant les élections législatives, prévoit de limiter le nombre de mandats de députés à 3. Dire aussi, je pense que 2 c'est trop court. Oui. Dire à monsieur que c'est pas parce qu'on est député qu'on ne va pas sur le terrain. L'agenda et l'emploi du temps de l'Assemblée nationale, il est organisé de telle sorte que les députés puissent aller sur le terrain. Donc tout ce qu'on a raconté, c'est un cumulard qui vous le dit, sur la nécessité d'être à la fois élu local et législateurs et députés pour mieux connaître le pays, c'est en fait une justification. Et je pense qu'en effet, on est un meilleur député. D'abord, il faut faire une séparation qui arrive maintenant, et c'est la loi votée par la gauche en 2014 qui le prévoit. C'est séparer les fonctions exécutives locales des fonctions de législateur, puisque le député n'est pas simplement le député de la circonscription, il est le député de la nation, pour construire l'état de droit et garantir ou améliorer nos libertés.
Vous êtes un cumulard repenti, Noël Mamet ?
Non, pas du tout repenti. C'est les circonstances qui ont conduit à cette situation. Vous m'avez présenté comme député non inscrit, ce qui est vrai, mais...
Vous êtes vert, hein ?
Je suis vert encore un peu. Mais en tout cas, j'ai appartenu au premier groupe écologiste de l'histoire de la République qui, malheureusement, s'est organisé pour se démanteler un peu avant la fin du mandat.
Sylvain Berrios, vous avez donc fait un mandat.
Un mandat.
Et vous passez la main ?
Oui, je passe la main. Moi, quand je me suis présenté en 2012, j'ai indiqué, contre ma formation politique d'ailleurs, que moi je voterais la loi sur le non-cumul des mandats. Lorsque j'ai été élu maire, j'ai indiqué que entre la ville de Saint-Maur-des-Fossés, dont je suis maire, et mon mandat de député, je choisirais la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Ce que j'ai fait, j'ai respecté un engagement pris, c'est un engagement de conviction. Je veux dire, c'est un choix intime, le choix d'une vie aussi. Voilà, je crois que les parcours, et notamment les nouveaux parcours de ceux qui arrivent, vont changer. La vision et l'exercice des mandats vont changer. Ma génération, et on le voit dans les députés sortants, souvent lorsqu'ils sont en situation de cumul, choisissent le mandat de maire. Parce que c'est aussi un mandat qui, dans une carrière qui débute, est un mandat plein d'apprentissage, plein d'enthousiasme. On peut faire beaucoup de choses, on peut donner beaucoup de choses et qui éclaire aussi la vie nationale. Et je crois que la rupture d'ailleurs, même si j'ai voté la loi, la rupture entre le local et le national est trop abrupte dans la loi. Je pense que c'est un des éléments qu'il faudra corriger. Même si, encore une fois, moi je l'ai voté. Donc les choses pourront être, je pense, améliorées.
À propos du renouvellement,
il faut... Pardon. Chacun son tour.
Oui. Catherine Cotel, moi je voudrais répondre et je m'inscris un peu en faux, chers collègues, parce que j'ai été élue locale pendant 4 mandats à Poitiers, mais je n'ai pas cumulé. J'avais décidé d'arrêter en 2008, de toute façon, et je n'ai pas cumulé. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de coupure avec le terrain.
Non.
C'est pas vrai, ça, cette idée. Je suis désolée pour notre auditeur, mais cette idée qu'on se sépare du terrain, c'est pas pensable. Enfin, on a une circonscription, il faut être dedans tout le temps. On reçoit des gens à l'eau permanence, on connaît les problèmes et les sujets, et ça alimente notre réflexion pour être législateur. Mais moi, je trouve qu'on ne peut pas faire les deux, et ça ne donnera pas, s'ils font leur travail sérieusement, des députés hors sol, je ne le crois pas.
Ouais. Noël Mamère, et après on parle du standard.
Ouais. Je n'ai pas indiqué que vous n'étiez pas sur le terrain. J'ai simplement indiqué qu'il y a un choix et que la rupture stricte entre un mandat municipal et un mandat national est peut-être trop rigide parce que, encore une fois, un mandat local éclaire le mandat national. J'ajoute une chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, les parlementaires, et Noël Mamère l'a rappelé, passent grosso modo 2 jours à l'Assemblée nationale et le reste du temps dans leur circonscription. Moi, je pense qu'on n'écrit pas la loi en 2 jours. Et on n'écrit pas la loi à 4 heures du matin devant 6 députés. C'est pas possible. Le Parlement a besoin de profondeur, a besoin de réflexion. Et on n'écrit pas convenablement la loi en siégeant 12 heures par jour, 15 heures par jour, 18 heures par jour, devant 4 députés dans l'hémicycle.
C'est pas exactement que les choses se passent. Donc je pense qu'il faut pas nourrir l'antiparlementarisme.
Mais ça arrive, en tout cas.
Vous avez des députés qui se contentent de venir le mardi et le mercredi. L'organisation de l'Assemblée nationale est ainsi faite que tous les mardis matins, il y a une réunion du bureau de l'Assemblée qui réunit le ministre chargé des relations avec le Parlement, le président de l'Assemblée nationale et les présidents de commissions et de groupes pour définir le programme des 15 jours qui suivent. Et effectivement, c'est le mardi et le mercredi qu'ont lieu les réunions de groupe et les réunions de commissions. Mais on ne peut pas dire qu'on vote des lois à 6. Un député ne peut pas, d'abord un député, chaque député appartient à une commission. Pour ce qui me concerne, j'étais à la commission des affaires étrangères. Comme nous sommes dans un groupe, il y avait des députés qui étaient à la commission des lois, d'autres à la commission des affaires sociales. Et quand il y avait les projets de loi qui les concernaient directement, celui qui siège à la commission des affaires étrangères n'a aucune raison d'être dans l'hémicycle. En revanche, Tout le travail parlementaire, il se fait là où ça ne se voit pas. On voit les députés le mardi et le mercredi lors des questions d'actualité entre 15h et 16h. Et quand on regarde le travail parlementaire sur les projets de loi qui peuvent être discutés pendant 7, pendant 15, pendant 3 semaines, souvenez-vous de ce qui s'est passé autour, par exemple, du mariage pour tous, eh bien les députés ont siégé sans interruption pendant longtemps.
Oui, donc ben, on était en pleine nuit, 4 dans l'Assemblée pour voter des textes majeurs. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose.
C'est par délégation.
C'est pas une bonne idée.
Alors, vous êtes trois, c'est déjà un sacré débat, mais on va repartir au standard parce qu'il y a Christian qui nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir. Merci pour cette question très pertinente. Effectivement, on pourrait commencer par un petit concours. On demande à tous les Français, enfin un panel de Français, combien il y a de députés et de sénateurs. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sachent qu'il y a 577 députés et 340 sénateurs. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le dire, enfin pas tout le monde, et il suffit, le pauvre caméraman ne sait pas comment faire pour prendre une vision des 30 pauvres là qui sont serrés les uns contre les autres. Il n'y a personne. Souvent on voit un orateur qui parle avec des grands effets de manche devant en fait 30 personnes. Voilà. Alors, donc ça c'est pas normal. Et je vois que notre Premier ministre, tu vois, on a parlé beaucoup de mobilisation, n'a jamais mis les pieds à l'Assemblée, et on nous explique, ben oui, qu'il est maire. Eh ben alors, mais est-ce qu'il est allé chercher quand même ces 10 000 euros? Vous voyez, c'est ça qui n'est pas tout à fait normal. Alors, moi, je dirais, 100 députés, 30 sénateurs, ça suffit largement, 3 absences dehors, comme on fait dans les entreprises.
Bon, alors, je crois qu'ils vont vous répondre, nos invités. Oui. Qui veut répondre avant tout à la question. Noël Mamère.
Je n'ai pas d'amitié particulière pour le Premier ministre. J'ai combattu la droite et j'ai combattu la gauche de gouvernement pendant ce dernier mandat parce qu'elle ne correspondait pas aux engagements qu'elle avait pris. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises l'actuel Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et sur, vous dites trois fois, vous êtes viré, bien sachez, monsieur, que si vous n'assistez pas, les commissions, elles ont lieu tous les mercredis. Donc, il y a 4 commissions par mois. Si vous assistez à moins de 2 commissions, c'est-à-dire à moins de la moitié des commissions, vous avez une amputation de votre indemnité. Donc, il y a quelques règles qui ont été mises en place. Il en faut sans doute encore un peu plus, qui sont nécessaires pour que les députés fassent preuve d'une certaine éthique et d'une certaine discipline. Mais il ne faut pas non plus jeter le manche après la cognée, car vous ne faites que nourrir l'anti-parlementarisme.
Question quand même sur le fait qu'on voit presque toujours, enfin globalement les mêmes, on en voit quand même certains qui reviennent devant les caméras de télévision, notamment dans la fameuse salle des Calcedones. C'est vrai que les 577, on ne les connaît pas forcément. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette salle des quatre colonnes? Peut-être Catherine Poutel ou Noël Mamère qui a été journaliste et qui va nous dire...
Je veux bien avoir une expérience. J'étais dans l'opposition à ce moment-là. On s'est battu pendant des heures et des heures et des heures, et on était nombreux sur la loi retraite de Fillon. Bon. On était dans l'hémicycle. Vous passez aux quatre colonnes, personne ne vous interroge, parce que, je ne veux pas dire, mais les journalistes vont toujours vers les mêmes têtes. Donc, jusqu'à jour, j'ai eu un incident, et Wirtz m'a traité, il y a eu un incident. Bon, je ne vais pas rappeler les faits, mais peu importe. Et à ce moment-là, tous les journalistes me sont tombés dessus en disant, qu'est-ce qui se passe, 8h du matin, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, bon. Donc vous voyez, c'est aussi ça, le fait qu'on peut travailler sans être toujours devant les caméras. Moi, je suis désolée, ceux qui sont devant les caméras ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Et je veux revenir à une expérience, puisque moi j'étais présidente de la délégation aux droits des femmes. J'étais beaucoup plus à la délégation, sans doute, que sur les bancs de l'hémicycle, j'y venais quand j'étais utile pour le vote ou pour faire passer des amendements que je soutenais. Mais si mon groupe me disait, il y a assez de monde, c'était pas la peine que j'y aille. C'est ça qui est mal rendu. Mais j'ai fait des heures et des heures. On a un bilan de 200 pages. J'ai fait des heures et des heures d'audition, très utile, avec des avocats, des associations, des féministes, et alimenté par notre circonscription. Donc je veux bien qu'on soit beaucoup moins nombreux, mais que nos électeurs ne disent pas à ce moment-là, on ne vous voit pas assez sur le terrain. On ne vous voit pas le dimanche à la fête de ceci, on ne vous voit pas au conseil municipal assister, pas y être, mais assister, etc. On peut, s'il n'y a plus que 100 circonscriptions, ça fait un député par département. Je souhaite bien du plaisir à celui qui le sera et qui aura des centaines de communes. Il faut aussi avoir cette logique-là. Hein. Ouais. On veut nous voir sur le terrain et on veut nous voir à l'Assemblée. Il faut qu'on arrive à conjuguer les deux et je pense à mieux rendre compte du travail de député.
Tu as raison, il y a toute une partie du
Noël Mamère. Il y a tout un journaliste qui rend mal compte.
Je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit par ma collègue. Il y a toute une partie du travail parlementaire que les Français ne voient pas. Bon, je ne suis pas le seul, mais j'ai présidé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre que nous avions demandé après la mort de Rémi Fraisse. Pendant 6 mois, toutes les semaines, nous pratiquions des auditions. Et ça ne se faisait pas devant les caméras. Oui, je peux vous parler des caméras et des quatre colonnes. Je pense que les journalistes, avant de critiquer les députés, devraient balayer devant leur porte. Parce qu'ils ne vont chercher, ils vont chercher toujours les mêmes. Ceux qui, comme moi, connaissent le code, la clé d'entrée, dont ils peuvent prendre une petite phrase. Mais sans doute qu'à côté de moi, il y a des députés qui ont des choses bien plus importantes à dire, mais qui ne seront jamais repérés par les journalistes parce qu'ils n'ont pas beaucoup le code et parce qu'ils vont mettre 4 minutes pour dire quelque chose qu'ils attendent en 30 secondes.
Sylvain Berrios.
Oui, moi, je suis pas... D'abord, moi, je mets rarement les pieds aux quatre colonnes parce que j'ai pas une appétence particulière pour les caméras. Et puis que je considère que le travail se fait ailleurs, mais les médias sont également utiles. Mais c'est pas nourri à l'antiparlementarisme de dire que le fonctionnement de l'Assemblée n'est pas le bon. Encore une fois, tout est organisé, Noël ma mère l'a rappelé, pour que les choses puissent se passer le mardi et le mercredi. C'est une forme de parenthèse parisienne.
Commission d'enquête parlementaire, c'est le jeudi.
Non mais d'accord, mais me dites pas qu'on siège convenablement, me dites pas que siéger...
Mais on vous a pas dit ça.
Me dites pas que siéger et que voter des amendements à 4h du matin devant une poignée parlementaire, c'est bien écrire la loi. Me dites pas qu'en commission, lorsqu'il y a des textes qui arrivent en urgence et qu'on travaille en pleine nuit, c'est bien travailler les textes. Je vous dis juste que ce fonctionnement... Ce fonctionnement-là n'est pas le bon. Et que l'Assemblée nationale ne doit pas être une parenthèse parisienne de 48 heures. On est parlementaire, on a besoin de réflexion, on a besoin de temps, on a également besoin de moyens, le monsieur le disait, pour travailler et pour travailler sereinement. Et c'est comme ça qu'on fera de bonnes choses et de bonnes lois. C'est ni dans la précipitation, ni dans l'urgence, ni dans un temps tellement restreint que finalement, le travail n'est pas bien fait.
Alors on va en reparler parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a des projets dans ce domaine, notamment pour renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de l'exécutif. Mais je voudrais qu'on parte au standard de France Inter pour parler peut-être de la représentativité de l'Assemblée. C'est Jacques qui nous pose cette question, il nous appelle de Fontenay-le-Comte. Bonsoir Jacques.
Bonsoir madame.
Bienvenue à vous.
Merci à vous. Alors je voulais dire simplement que sur le plan professionnel, trois catégories dominent les cadres et les ingénieurs du secteur privé, sont les plus nombreux, c'est-à-dire ils représentent un député sur quatre. En second lieu viennent les fonctionnaires qui fournissent un député sur cinq. Ils sont issus de trois fonctions publiques, l'État, les collectivités locales, le secteur hospitalier. On trouve ensuite les professions libérales, un député sur six, 33 avocats, 23 médecins, dont certains continuent à exercer un temps partiel. Viennent ensuite les enseignants, un député sur 10, en provenance de l'enseignant secondaire et supérieur, pas instituteur, hein, pas du tout. Alors, ce qui est à remarquer, c'est qu'aucun député ne se réclame du monde ouvrier. Et au final, et contrairement à une idée reçue, les députés issus du secteur public ne sont pas dominants. Et donc, je voudrais dire à ces messieurs, je voudrais leur demander qu'est-ce qu'ils représentent exactement. Parce que si c'est l'électorat français, je suis désolé, ils sont complètement à côté de la plaque.
Merci Jacques pour cette question qui concerne donc la représentativité de notre Assemblée nationale, qui va être, on le rappelle, renouvelée. Catherine Coutel, vous, enseignante à la retraite.
Oui, c'était mon métier, parce que je pense que député n'est pas un métier, c'est un mandat. J'ai été aussi élue locale et maintenant je suis députée, j'étais députée. Mais ce que je voudrais dire à Jacques, là, qui vient de nous interpeller, certes, il faut que l'Assemblée soit diverse dans ses origines. Moi, je me bats pour la parité, hein, qu'il y ait autant d'hommes que femmes. On est encore loin du compte, puisqu'on a une des assemblées à 28%. Mais je pense qu'une fois qu'on est élu, moi j'ai ce sentiment très fort, on représente la totalité de la nation, la totalité de nos concitoyens. Dans notre circonscription, on est élu par une partie de la population, puisqu'on a le vote majoritaire, mais on représente tout le monde. Moi j'ai pas le sentiment de ne représenter que les femmes.
Non mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser quand même. Absolument. 6% de députés issus des classes populaires,
c'est une vraie question. C'est une réalité. Le personnel politique français, pas simplement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les mairies, mais aussi dans les départements, mais aussi dans les régions, n'est pas le reflet de la diversité sociale de ce pays.
Non,
il y a un député communiste qui s'est revendiqué ouvrier qui s'appelait Carvalho, il y en a sans doute quelques autres qui sont issus du monde ouvrier, mais regardez la représentation des personnes issues de l'immigration. Il y en a très peu, et vous avez très peu d'artisans, ce sont le recrutement se fait dans les mêmes couches sociales, et c'est encore pire dans les mairies. Parce que dans les mairies, comme on ne veut pas payer le prix de la démocratie, un conseiller municipal reçoit des indemnités totalement dérisoires, ce qui fait que ceux qui acceptent de s'engager pendant 6 ans de leur vie pour le bien public, puisque c'est quand même cela, sont des gens qui viennent de niches protégées. Et donc, il y a toute une série, tout un panel de la société française qui n'est pas représenté. Alors, je pense à ma suppléante qui, j'espère, sera députée. C'est une femme, et donc Catherine a raison de dire qu'elles sont sous-représentées. Elles sont quand même 52% de l'électorat. Alors, si les femmes issues de la diversité, alors là, c'est une hécatombe. Il n'y a personne, pratiquement personne.
Catherine Coutel, je crois que vous allez faire quelque chose pour les nouvelles députées qui vont entrer à l'Assemblée nationale, c'est ça?
Oui.
Leur donner un petit coup de main en tant que...
Oui, absolument. Nous avons créé une association d'anciennes et actuelles députées, mais on pouvait faire qu'avec les anciennes, celles qui ne se représentaient pas au départ. Parce que je pense qu'il y a besoin, Noël Mamère le disait au début, c'est une maison qui a des codes quand même, et il faut la décrypter au départ. Et ceux qui vont vite prennent les places. Et donc je pense que les femmes, moi j'avais eu des témoignages en 2012, assez nombreux, m'avaient demandé de discuter avec elles pour savoir comment se repérer, concilier la vie personnelle à la vie professionnelle, parce qu'il faut toujours le faire quand même quand on est député, qu'on a des enfants. Certaines étaient mères célibataires, c'était un peu compliqué. Et donc, oui, nous allons faire du soutien, du coaching, et puis surveiller que la parité est bien toujours réelle. On avait une parité dans les présidences de commission, par exemple, on avait une parité au bureau de l'Assemblée. J'espère que tout ça restera, parce qu'il est important que les femmes exercent des fonctions et qu'on puisse les appeler Madame la Présidente.
Justement, une auditrice nous appelle au standard de France Inter. C'est Florence qui nous appelle du Tarn et Garonne. On est ravis. Bonsoir Florence.
Bonsoir. Moi j'avais juste deux petites questions. Une en particulier par rapport aux parlementaires et leur réserve parlementaire. À savoir s'ils avaient la même réserve parlementaire ou pas. S'il y avait des critères d'éligibilité qui étaient communs à l'ensemble des parlementaires. Et donc voilà. Et après, il y a aussi s'il y avait des contrôles après sur l'utilisation de cette réserve parlementaire. Éventuellement, si j'avais une petite question supplémentaire, c'était un petit peu la position et peut-être la difficulté que les parlementaires peuvent trouver dans leur travail quotidien avec les pressions des différents lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Voilà, avoir un petit peu un petit aperçu là-dessus.
Alors, on va commencer peut-être par la réserve parlementaire, oui. Puisque oui. Vous posiez cette question. Merci beaucoup, Florence. On va peut-être passer la parole 2 secondes à Sylvain Berger, parce qu'il n'a pas parlé depuis un petit moment. On redéfinit peut-être quand même, pour commencer, de quoi il s'agit quand on parle de réserve parlementaire.
Chaque parlementaire dispose de ce qu'on appelle une réserve, 130 000 euros de mémoire, qui lui appartient de diffuser dans le monde associatif, dans le monde dans le monde qui est le sien dans la circonscription. Moi, j'ai la façon dont je fais, je réunis ma circonscription, des membres du tissu associatif, et puis nous étudions les dossiers qui nous sont présentés, et je publie, mais maintenant, tu veux dire, c'est obligatoire, je crois, je publie l'intégralité de ma réserve parlementaire, qui est désormais publique. Pour autant, est-ce que je trouve normal qu'un parlementaire dispose de 130 000 euros, finalement, à distribuer à discrétion? Ça, je pense que c'est un sujet qu'on peut mettre sur la table. Moi, je suis pas persuadé que ça soit quelque chose qu'on puisse comme ça faire perdurer, parce que c'est une facilité, certes ça fait plaisir à ceux qui peuvent bénéficier de ces projets, mais je crois pas que le rôle d'un parlementaire malgré tout soit de distribuer une cagnotte.
Voilà. On est d'accord. On est d'accord, il faut préciser comme le disait Catherine en aparté que c'est la gauche qui a réglementé la question des réserves parlementaires, notamment en obligeant à la publication, ce qui a d'ailleurs contribué à moraliser un petit peu la réserve parlementaire. Pour ce qui concerne les écologistes, nous avions une part locale et une part nationale que nous mettions en commun pour aider des associations, des ONG. Et pour ce qui me concerne, j'ai distribué puisque c'est ainsi qu'on peut le dire, et ça nourrit peut-être un peu le clientélisme, il faut le dire, et je pense que ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Si on veut moderniser l'Assemblée, il faut d'abord en faire un outil de contrôle, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, parce que c'est une armée des ombres, qu'elle ait beaucoup plus de pouvoir d'initiative législatif, puisque le seul pouvoir qu'elle a, c'est des propositions de loi qu'on appelle des niches parlementaires. Vous voyez que le mot, déjà, traduit bien ce qu'on en pense. Et effectivement, il faut... moi, ce que j'ai fait, c'est que je le distribuais à des associations, je pense entre autres au Resto du Cœur ou à d'autres associations dont on pense qu'elles ont un rôle social. Pour ce qui me concerne, c'était ça. Mais ce n'est pas le cas de tous les parlementaires.
En tout cas, vous êtes tous les trois d'accord pour dire que enfin, c'est moi, j'étais, pas forcément
j'ai
justifié.
J'étais dans la proposition de la supprimer. Mais pour l'instant, quand on est arrivé en 2007, c'était la discrétion de, on ne sait pas qui. Hein. Ça allait de 30 000 euros, ce qu'on avait, nous, les députés d'opposition, à 200 000 euros, je crois, de certains. Donc en 2012, Bartolone a au moins mis de l'ordre dans l'affaire en disant c'est 130 000 euros pour tout le monde. Un peu plus pour les présidents de commission. Mais bon, 130 000 pour tout le monde. Deuxièmement, je rappelle, je le dis toujours, ce n'est pas de l'argent que nous avons dans notre poche. Nous n'avons pas de chèque, nous n'avons pas de chéquier. Ce sont des dossiers qu'on fait monter à des collectivités, voilà. Moi, des maires qui me demandent pour... Alors, j'ai mis des critères, par exemple, J'ai dit les centres-bourgs, la petite enfance et l'égalité femmes-hommes et l'environnement. Donc, si les projets des mairies entrent là-dedans, j'attribue, et c'est le ministère concerné qui distribue. Nous ne voyons passer aucun argent, hein, je le dis.
Et parce le ministère peut décider que ce n'est pas éligible, puisqu'il y a maintenant des critères fixés pour la validité d'une réserve
pour les associations, c'est pareil, puisqu'il y avait un peu plus d'argent, et là j'en ai donné, moi, ça n'est pas étonnant, aux associations féminines, par exemple le sport féminin, qui a beaucoup moins d'argent que le sport masculin, que je trouve très injuste, et que je rééquilibrerai ainsi. Mais tout ça est publié, et ce n'est pas de l'argent que nous avons, hein. Je le redis parce qu'on a l'impression de le sortir de notre poche.
En tout cas,
pas du tout.
En fait, si vous êtes tous d'accord.
Ce que vient d'être dit, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent, on n'a pas un chéquier où on distribue 130 000 euros. De la même façon que les crédits de collaborateurs, ce n'est pas de l'argent qu'on a.
Alors, on va
peut-être
ouvrir une petite parenthèse et en profiter pour redire un petit peu les moyens dont disposent les députés. Hein, on va faire un peu de pédagogie. Oui. Vous m'arrêtez si je me trompe. L'indemnité de base, 5 500 euros brut par mois, c'est bien ça. Plus une indemnité de fonction de 1 400 euros, une indemnité de résidence de 260 euros, ce qui fait 7 100 euros brut par mois. Non, c'est pas ça. C'est faux. C'est pas bon.
Des vieux chiffres.
Je pense que le net, si j'ai bonne mémoire, on va toucher 5 200 euros.
5 200 euros net, ça là-dessus on est tout à fait d'accord. Ensuite, il y a cette fameuse indemnité représentative de frais de mandat, 5 770 euros brut par mois.
Qui est là, s'il n'y a pas de brut ni de net.
Il
n'y
a rien du tout,
c'est 700 euros.
C'est pas une indemnité,
on ne la garde pas. C'est quelque chose
qui vous sert à louer des salles, à louer notre permanence,
à faire un journal, si on a besoin de faire un journal, à faire des réunions. C'est pas de l'argent.
Il n'y a pas de brut ni de net.
C'est uniquement pour notre mandat de député. Donc on ne doit l'utiliser qu'à cet usage-là.
Et d'ailleurs versé sur
un compte
spécifique.
On n'a pas le droit de le mélanger.
Mais
vous
n'avez même pas de justificatif à donner sur l'emploi de cette somme. C'est
on
ça
doit s'engager. Si on doit s'engager
sur l'honneur.
Si on doit s'engager sur l'honneur, sur la qualité de nos dépenses ici.
Absolument.
Enfin, faut pas.
C'est pour ça qu'on est en train d'essayer d'y voir un petit peu plus clair.
Crédit collaborateur.
Voilà, 9 500 euros. Là, on dit brut là quand même par mois. Là, c'est ça.
Alors c'est.
Mais oui, c'est une enveloppe.
C'est une enveloppe.
Après, c'est l'Assemblée nationale. Vous passez des contrats de droit privé avec des collaborateurs.
Entre 1 et 5,
cette enveloppe,
c'est ça
vous ne pouvez
employer.
Pas en disposer aussi longtemps que vous n'employez pas des collaborateurs. Et c'est l'Assemblée nationale qui gère ce crédit collaborateur. Et quand vous dépassez votre crédit collaborateur, ce qui est possible, ce qui est mon cas par exemple, eh bien, la somme qui est en dépassement, on vous la retire sur votre indemnité représentative de frais de mandat.
Et depuis 2007, on n'a pas le droit d'utiliser plus de la moitié de cette somme pour la famille. Pour les collaborateurs personnels, depuis 2007.
Aussi, bien sûr.
Ben voilà, j'espère que les choses sont plus claires. Oui. J'en reviens deux secondes à ce que nous disait Florence tout à l'heure, parce qu'il y avait une question sur le poids des lobbies et leur influence. Noël Mamère.
Il est très important, évidemment. Et de toute façon, comme on dit, le problème dans une démocratie, c'est pas de savoir s'il y a des pressions, c'est quels sont les moyens que nous avons de résister aux pressions. Alors, effectivement, dans le panel des 577 députés et des 350 sénateurs, vous avez des députés ou des sénateurs qui sont des relais de lobbies, il faut le reconnaître, et puis vous avez ceux qui ne veulent pas entendre parler de ces lobbies, donc qui résistent. Donc nous, les écologistes, on en connaît des lobbies, le lobby de l'agriculture industrielle, le lobby pharmaceutique, le lobby du nucléaire, et tout cela, ça fait partie des combats que l'on mène, mais c'est pas spécifique aux écologistes. La plupart des députés, il y a des députés qui se sont fait d'ailleurs épingler comme présentant des amendements qui n'étaient que le relais de ce qui leur, qui n'était même que la traduction de ce que leur avaient écrit certains lobbies. Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Mais nous avons aujourd'hui une haute autorité qui nous demande de déclarer notre patrimoine, mais aussi de déclarer quels sont nos éventuels conflits d'intérêts. Je pense que c'est d'ailleurs ça le plus important, et c'est ça qu'il faut vraiment moraliser.
Ceux qui seront élus vont commencer. Oui. On a une question justement qui est dans cette droite ligne. C'est Pierre qui nous appelle. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
J'ai pas réussi à comprendre d'où vous appeliez.
De Mauligès, dans les Bouches-du-Rhône.
Ah, très bien.
Il fait très beau, les Alpilles sont très belles. J'appelais simplement pour soulever une question. Est-il normal qu'il y ait autant de députés qui soient avocats d'affaires? Comment peut-on être avocat d'affaires et ne pas et accepter des missions de grands groupes qui payent fort cher? Parce que quand on lit certaines déclarations de cabinets d'avocats d'affaires avec les résultats qu'ils font, on se demande comment on peut être député, avocat d'affaires, maire d'une grande ville, et jusqu'à présent, quelques-uns étaient même députés européens. Alors, est-ce qu'il n'est pas...
C'est pas possible.
En tout cas, on ne peut pas être député national et européen en même temps.
Non, d'accord. Alors, on est d'accord. Mais pour l'avocat d'affaires, on peut l'être. Et ça, c'est terrible.
Merci, Pierre.
Parce que c'est la porte ouverte à la corruption.
Le temps tourne, alors je vous arrête. Merci pour cette question. Avocat d'affaires, qui répond?
Moi, je pense qu'il faut, quand même se méfier, hein, parce que à demander aux parlementaires de n'exercer finalement plus aucun métier ou en choisir que certains qui exercent certains métiers, on va finir par décourager beaucoup de talents. Moi, je viens du secteur privé, j'ai eu un parcours professionnel. Lorsque j'ai été élu député, j'ai dû cesser mon activité précisément parce que sinon je me retrouvais à travailler avec des entreprises publiques qui étaient mes clients. Demain, je vais reprendre une autre activité. Et attention, parce que si on rompt complètement le lien avec un métier, on devient du coup un député professionnel, c'est-à-dire un député de métier. Et dans ce cas-là, ça change complètement la nature et la vocation d'ailleurs de l'élu. Donc méfions-nous. Alors, avocat d'affaires, il peut évidemment y avoir des conflits d'intérêts. Il est important que tout ça soit mis sur la place publique de telle sorte qu'on puisse en juger. Mais attention, parce que à vouloir laver plus blanc, on va finir par avoir des parlementaires qui seront transparents au sens incapable de faire autre chose que le métier de député.
Voilà, il y a Noureddine qui, d'Annecy, nous envoie un petit courriel et qui nous dit effectivement, si on réduit le nombre de mandats, il faut faire quelque chose pour qu'un député puisse réintégrer son ancien travail avec l'ancienneté.
Mais pas que pour le député, un conseiller municipal, par exemple. Et si vous faites comme un chômeur et que vous lui donnez une indemnité après 6 ans passés à la cause du bien public, vous aurez beaucoup plus, la diversité sociale sera beaucoup plus représentée. Moi, je pense, je ne suis pas d'accord avec mon collègue, je pense que, qu'on vienne du privé ou du public, on doit mettre entre parenthèses le temps de la législature, ses activités professionnelles. Ce qui veut dire en contrepartie, et ça, les Français ne veulent pas l'entendre, parce qu'on n'a pas arrêté de leur seriner que les députés ne faisaient rien, qu'ils étaient trop payés, faut qu'on paie le prix de la démocratie. Car si vous n'indemnisez pas bien un député, vous aurez toujours les mêmes, venant de toujours les mêmes milieux, c'est-à-dire ceux qui sont favorisés, et on se retrouvera comme au XIXe siècle avec des députés qui venaient que d'une classe sociale.
Je pense que la France doit inventer la mobilité des élus. On s'est habitué à une classe politique qui était élue pendant très longtemps, parce que justement, il fallait pérenniser, après il n'y avait pas de solution. Donc il faut, maintenant ils vont être beaucoup plus jeunes, si j'ai bien compris, ils ne vont pas rester jusqu'à 70 ans, donc il faut qu'ils arrivent à être 2-3 mandats députés, et puis ensuite qu'on retourne dans le privé ou dans la fonction publique, ou etc. Il faut qu'il y ait cette mobilité qu'on n'a pas réussi, nous, la France, à
mettre en place. La moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est 60 ans. Et c'est principalement des hommes, donc ça devrait quand même changer à l'occasion des prochaines élections législatives, c'est très bien.
Dernière question au standard, puisqu'il est pratiquement 56, c'est Daniel qui nous appelle de l'Aveyron. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir. La question est la suivante. Je vous remercie pour vos émissions, mais ça c'est habituel qu'on vous le dise, parce que ça fait longtemps que...
Merci, ça fait toujours plaisir.
Voilà. Ma question est la suivante, c'est que quel est le pouvoir exact des députés vis-à-vis des décisions qui se prennent à l'Assemblée, et en particulier... Le pouvoir des députés par rapport à leur parti. Quand le parti a décidé de prendre une décision qui est conforme à l'exécutif, Comment, quelle est exactement leur marge de manœuvre concernant le libre arbitre?
Merci beaucoup, Daniel.
Alors,
vous avez chacun 30 secondes.
La réponse se nomme les frondeurs.
Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas en France de mandat impératif.
Non. Absolument.
Le seul, ce que vous voulez.
Le député, rend compte aux Français, donc à ces électeurs. Moi, j'ai parfois voté des textes alors que mon groupe politique me demandait de ne pas les voter. C'était le cas d'ailleurs sur le non-cumul des mandats, mais il y en a eu d'autres. On est absolument libre de faire ce que l'on veut. En revanche, le jour où on sera dépendant d'un parti pour aller à l'Assemblée nationale, il n'y aura plus que des godillots.
Oui, enfin, on est quand même dépendant d'un parti à part quelques-uns d'entre nous.
J'ai été élu sans investiture.
Un député est porteur d'une part de la souveraineté nationale. Et donc, à ce titre, son droit d'amendement est imprescriptible. Et à ce titre, il n'a pas, comme l'a dit mon collègue, de mandat exécutif. Donc, il agit selon sa conscience et ce qu'il croit juste.
Question,
mais il faut quand même qu'il y ait aussi parfois une majorité et un peu de discipline. Je veux dire que chacun a son mandat individuel et est responsable de ses votes, mais il y a aussi
à rendre compte. Un programme.
Mais il y a alors, parfois des décisions.
Moi, cette année, nous avons un président qui, pour l'instant, n'a pas de troupes, est en train d'en constituer. On ne sait pas très bien si la majorité parlementaire ressemblera à la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas la revanche du Parlement cette année? Parce qu'on n'a jamais autant attendu les élections législatives.
Mais tant mieux.
Ça ne sera la revanche du Parlement que lorsque le président de la République et son gouvernement auront décidé de donner plus de pouvoir d'initiative et de contrôle au Parlement.
Et a priori, Emmanuel Macron souhaite le faire.
Que la loi sur la moralisation de la vie publique aura été votée, ajoutant à la limitation du cumul des mandats, la limitation dans le temps et donc le fait que les députés ne feront que leur travail législatif. Mais déjà, ça sera un problème,
vous savez. Je rappelle que le président de la République demande à l'ensemble des candidats d'En Marche de respecter strictement dans leur vote le projet que lui-même propose. C'est-à-dire que
c'est
la
déjà
liberté,
la discipline, hein,
c'est déjà une discipline et c'est déjà le chemin d'un mandat impératif.
Non,
moi, je dis simplement que c'est comme ça qu'on fait des députés godillots.
Non, mais non. Et enfin, c'est normal aussi qu'ils s'engagent sur un programme et qu'ils puissent voter au mois de juin.
Où est la liberté
dans la longueur de la législature, il y a des tas de situations qui se présentent. La déchéance de nationalité, on ne la connaissait pas, nous, en 2012. On ne savait pas que ça viendrait.
Après, la loi travail non plus, d'ailleurs.
Chacun a jugé de son choix, y compris quand il était dans un
parlementaire doit être libre.
Il n'y a qu'une exigence qui est formulée, vous votez les budgets, vous ne votez pas de motion de censure, à partir de ce moment-là, absolument. Vous n'appartenez plus à la majorité.
Absolument. Un grand merci à tous les trois d'être venus ce soir. Merci. Noël Mamère, Catherine Coutel, Sylvain Berrios, grand merci, c'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui ont appelé, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menem, Jérémy Younes à la réalisation ce soir, Marion Lelay à la technique, Arnaud Caillet, Antoine Gomez, Juliette Delperroux, merci aussi aux standardistes de l'émission.